Alors, je vais enregistrer ce que je vous raconte. Le PowerPoint et l'enregistrement, si vous avez envie de réviser, mais vous allez déjà le subir une fois en live, et après, si vous voulez le réécouter, ce sera possible. Voilà, je mettrai à disposition de vos professeurs ce que j'ai fait dans les autres lycées, puisque vous êtes le quatrième lycée où je fais cette conférence. Donc, pourquoi faire ça ? Ben, tout simplement, cette année, on a dû vous le dire, l'UNESCO, vous savez, l'UNESCO, c'est la partie culturelle des Nations Unies, a décrété que c'était l'année du tableau de Mendeleïev. Pourquoi ? Ben, tout simplement, il y a 150 ans que ce tableau a été publié et qu'il fait aujourd'hui toujours autorité en la matière. Donc l'objet de la conférence, c'est de vous raconter comment on est arrivé à ce tableau jusqu'en 1869, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé après, c'est-à-dire de 1869 à aujourd'hui, pendant les 150 ans qui ont suivi, il s'est passé des choses autour de ce tableau. Donc on y va. Quand on fait de l'histoire, on commence toujours à l'Antiquité. Donc comment pensait-on à l'Antiquité ? C'est toujours les Grecs qui ont commencé à formaliser quelles idées on pouvait avoir, quelle était la structure de la matière. Alors, la théorie dominante, c'était la théorie, on va dire, aristotélicienne, Aristote, vous voyez, mais il y en a d'autres, Empédocle, Platon, etc. C'est la théorie des quatre éléments, faite par des philosophes, c'est purement spéculatif et philosophique au sens un peu péjoratif du terme. Donc les quatre éléments, ce sont le feu, l'air, l'eau et la terre, et on associe à chacun de ces éléments un polyèdre régulier que vous voyez, le tétraèdre, l'octaèdre, le dodécaèdre et le cube. Voilà. Je reviendrai après, simultanément à peu près, il y avait la théorie atomique qui finalement a pris le pas à la fin du 19e siècle sur cette théorie quand même qui est un peu fumeuse, mais elle n'a pas eu de succès pendant l'Antiquité, tout simplement parce que la puissance de l'école aristotélicienne était telle qu'elle a combattu cette théorie. Bien, alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pendant pratiquement 2000 ans, puisque je rappelle les penseurs grecs, c'est le 5e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, pendant 2000 ans, on a fait une activité qu'on a appelée ensuite alchimie, et alchimie, c'est la transcription en langage latin, on va dire, d'un mot arabe qui est alchimia. Et le mot de chimie vient de ce nom d'alchimie. Alors qu'est-ce que c'est que cette alchimie ? Eh bien, c'est toute une série de recettes dont l'objectif initial était de faire des ersatz, des fausses pierres précieuses et des faux métaux précieux. Puisque l'or, ça coûte cher, donc on était déjà en train d'essayer d'inventer des techniques pour faire de la bamelotterie. Et en faisant ça, eh bien, on a mis au point un certain nombre de techniques de base qui sont toujours utilisées dans la chimie, en particulier pour les techniques métallurgiques et les techniques de teinture et de tannage. Alors, l'alchimie a une particularité, c'est que c'était une science ésotérique. Vous savez ce que veut dire ésotérique, c'est-à-dire cachée de la plus grande foule et réservée aux initiés qui connaissent cette technique. Et donc, on utilise des mots compliqués, des symboles, des codes d'écriture, des choses comme ça, qui font que, à part celui qui les écrit, les autres ont bien du mal à comprendre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un progrès scientifique dans cette activité par nature, puisque vous savez que la science, le fondement de la science moderne, qu'on appelle moderne, c'est le partage des connaissances. Il y a toujours quelqu'un de nouveau qui va faire avancer d'un pas la connaissance mutuelle de l'ensemble de la communauté. Alors, on a quand même, il y a quand même quelques socles qui sont arrivés, et on cite quelques personnes, parce que des gens qui ont fait de l'alchimie, il y en a eu des milliers, dont beaucoup sont inconnus. On cite Jabir al-Ayyam, et donc on appelle en Occident Geber ou Geber, poser des bases qui ont été réutilisées par la suite. C'est-à-dire, on associe aux métaux précieux les planètes, les noms des planètes. Donc, l'or, c'est le soleil, l'argent, la lune, le cuivre, Vénus, etc. Vous voyez, c'est marqué. Et également, toutes les techniques de manipulation qu'on utilise en physique et en chimie. Donc, vous voyez toute la liste. La sublimation, donc sublimation, passage de l'état solide à l'état gazeux, et vice-versa, la distillation ascendante ou descendante, la filtration, la coupellation, coupellation c'est faire griller dans une petite coupelle, l'incinération, la fusion, le bain-marie, le bain de sable, pour faire des opérations qu'on utilisait toujours à la fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Un autre, c'est Avicenne, et qui a mis sur le tapis un des thèmes de l'alchimie. L'alchimie, c'était toute une philosophie qui disait on recherche d'une part l'immortalité, et d'autre part on cherche la transmutation, c'est-à-dire arriver à faire de l'or avec du métal vil, par exemple le plomb. Et pour faire ça, il y a la baguette magique, si vous voulez, c'est la fameuse pierre philosophale qui est recherchée par tous les alchimistes pour pouvoir faire cette transmutation. Alors, comme lui, c'est un gars intelligent, il a dit, écoutez, là, ça va pas la tête. Uniquement sur des raisonnements philosophiques, c'est pas possible d'obtenir la transmutation. Bon, c'en est resté là. L'idée de continuer à chercher la pierre philosophale a subsisté jusqu'à la fin de l'alchimie qu'on peut situer au milieu du XVIIIe siècle. Alors, une autre figure importante, c'est Paracelse, qui est un médecin suisse, qui a eu son heure de gloire à la fin du Moyen-Âge, on va dire, et qui était surtout connu pour ses qualités de médecin, mais qui a essayé de faire un système également pour comprendre de quoi était fait la matière, et il a proposé de trois corps fondamentaux, le soufre, le mercure et le sel. Alors à l'époque, le soufre et le mercure, et en particulier le mercure, c'était un des outils, un des corps qui était, on va dire, magique dans tous les labos d'alchimie. On l'appelait le vif argent, hein, et on utilisait le mercure pour faire dissoudre des métaux, des choses comme ça. Et on avait en particulier l'habitude en alchimie, on tâte. C'est-à-dire on goûte tout ce qu'on fait. Essayez de demander à votre professeur de chimie de mettre le doigt dans les éprouvettes et de faire comme ça. Voilà, on faisait comme ça en alchimie. Donc quand vous tripatouillez du mercure en permanence et que vous faites ça, il vous arrive après un petit peu des bricoles. D'ailleurs, tous les alchimistes étaient un peu cinglés. Voilà. Alors donc, voilà la théorie alternative, qui est la théorie atomique, qui est aussi purement spéculative, puisqu'on n'a aucun moyen dans l'Antiquité de la démontrer, simplement avec des analogies un petit peu simples. L'analogie, c'est l'analogie de la falaise, si vous voulez. Quand vous êtes sur la plage, vous voyez bien qu'il y a des petits grains de sable, et donc il y a des petits grains élémentaires. Quand vous êtes sur le haut de la falaise, à 100 mètres de haut, vous avez l'impression que la plage de sable, c'est un continu parfait. Donc, suivant le degré d'observation que vous pouvez faire, on peut très bien avoir la matière faite de corps très petits et assemblés et ne pas pouvoir le voir. Donc, ce que disaient ces gens-là, la théorie est valable. Et on n'a tout simplement pas le moyen de voir les éléments les plus fins parce qu'ils sont trop petits. Et finalement, c'est eux qui avaient raison, mais ça, on l'a su 2000 ans après. Alors, on arrive, on va très vite là, et on arrive au 16e, 17e siècle, avec quelques penseurs scientifiques, puisque vous savez que philosophie, ça ne veut pas dire philosophie au sens moderne du terme, ça veut dire étude de la nature. Philosophie, ça veut dire la science de du monde physique de la nature. Je vous cite trois noms. Descartes, c'est un nom que vous avez déjà entendu. Donc Descartes, c'est le milieu du XVIIe siècle, qui a fait un petit peu de physique, un peu déjanté, mais avec les idées de l'époque, ce n'était pas un inconvénient. Gassendi, c'est un contemporain de Descartes, c'est un Français, comme Descartes d'ailleurs. Et Newton, donc l'anglais, Newton, la grande théorie universelle de la gravitation, il a dit, ben moi je crois à la théorie atomique et j'imagine que au niveau de l'atome, ça se comporte exactement comme les systèmes planétaires. Il a essayé de transposer sa théorie de la gravitation, donc qui décrit les lois des planètes autour du Soleil, de dire ben, au niveau de l'atome, ça se passe pareil. Il y a un centre et il y a une périphérie, et tout ça, ça s'agite comme ça, et je peux tout expliquer comme ça. Alors qu'il n'avait aucun élément, évidemment, tangible pour appuyer sa théorie. Et 300 ans après, on a vu qu'il avait raison. Hein, il était quand même pas mauvais. Alors, la chape de plomb du secret émerge, enfin se soulève un petit peu dès le 17e, 18e siècle, et on voit apparaître en particulier la théorie des affinités chimiques, c'est-à-dire essayer de mettre dans un cadre normalisé, entre guillemets, la façon dont les corps s'assemblent. Alors, à l'époque, évidemment, on n'avait pas les symboles chimiques et on avait une imagination débridée pour donner des symboles très jolis à chaque corps, soit élémentaire, soit composé. Une question ? Oui ? Oui, mais atome, ça veut dire insécable. C'est ça l'étymologie d'atome, ça veut dire ça. A, ça veut dire qui ne peut pas. Et tome, ça veut dire couper. Atome, ça veut dire qui ne peut pas se couper. C'est la définition même du mot. Hein. Donc on dit, ben, on va en coupant sans arrêt, à un certain moment, on ne peut plus couper. Donc c'est l'atome. Ah ben non! Non, il n'y avait que des choses qui ne pouvaient pas se couper à un certain moment. Donc, je sais pas, je me souviens plus s'il a utilisé le mot atome, si vous voulez, mais implicitement, il était d'accord avec la théorie atomique. Voilà. On va y revenir. Hein. Je comprends la question, mais il faut commenter un petit peu. On avance. J'essaye d'aller un peu vite pour qu'on ait le temps, justement, à la fin d'échanger et qu'avant que la sonnette retentissent. Alors, on va arriver maintenant à toute une série de grands scientifiques qui n'avaient pas la volonté particulière de faire une théorie sur la structure de la matière, mais qui essayaient d'avancer dans la connaissance de la matière ou de certains corps dans toute la panoplie de ce que l'on connaissait à l'époque. Le premier de la bande, c'est toute une série de chimistes anglais, chimiste et physicien, puisque la notion de chimiste, on va dire qu'elle est séparée, enfin spécifique, elle apparaît qu'au moment de Lavoisier, donc on va dire 1800 hein, à peu près. Donc là, on est dans les années début du XVIIIe siècle, dans les années 1730-1740. Robert Boyle, c'est quelqu'un qui a découvert le premier élément qui n'était pas connu avant. L'idée qu'on découvre des corps que l'on ne connaissait pas avant, il y a un saut psychologique à faire qui est extraordinaire. Avant, on avait une collection, on va dire, de quelques centaines de corps. Je parle pas des corps composés, mais des corps, on va dire, simples. L'or, l'argent, les métaux, les choses comme ça, et de dire, ben, tiens, je trouve quelque chose qui n'existe pas dans mon catalogue de corps, et quelque chose qui est différent. Et c'est le phosphore. Comment il a fait pour trouver le phosphore ? Tout simplement en distillant de l'urine. Et en distillant, en redistillant, en redistillant. Et à la fin, au lieu, l'urine, c'est un produit chimique, c'est le premier produit chimique industriel qui ait jamais existé. Avec l'urine, on faisait du pastel, on faisait de... Donc je recommande à vos professeurs de faire un cours sur la chimie de l'urine. C'est très intéressant. Voilà. Et je peux vous raconter, mais j'ai pas le temps, comment on faisait la teinture du pastel grâce à de l'urine. Voilà. Il y avait un commerce de l'urine. Voilà. Bon, donc il a trouvé du phosphore. Et surtout, il a dit, je mets en place des systèmes une méthodologie pour trouver des nouveaux éléments qui n'existaient pas. Ils existaient, mais dont on ne soupçonnait pas l'existence. Exemple, le phosphore. Et donc cette méthode, elle a gardé son nom, c'est celui qui l'a proposé, c'est l'analyse. Alors l'analyse qui était à l'époque qualitative, on verra avec le monsieur Lavoisier qu'elle deviendra également quantitative. Donc c'est le père de la chimie scientifique. Le voilà monsieur Robert Boyle, portraituré, et son ouvrage célèbre. Et c'est là que le mot moderne de chimie apparaît pour la première fois, c'est « the skeptical chemist » in English in the text, le chimiste sceptique qui se moque de ce qu'on appelait à l'époque les spagiaristes et les alchimistes, donc voilà le mot « alchimiste », qui étaient tous ceux dont j'ai parlé avant, en disant que c'est des marchands de soupe, c'est le cas de le dire, et qui racontent n'importe quoi. Donc je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, on continue. Et il n'a pas fait que de la chimie, il a fait également de la physique, et son nom est associé à une loi que vous avez apprise. C'est la loi de Mariotte. Alors, en France, on dit la loi de Mariotte, en Angleterre, on dit la loi de Boyle. Maintenant, on dit la loi de Boyle-Mariotte, parce que, indépendamment les uns des autres, la loi qui dit le produit du pression par le volume d'un gaz est constant, dans des conditions particulières. Et donc, il a également fait émerger la distinction entre mélange et composé, qu'on a dû vous apprendre dans vos cours de chimie. Le but de la chimie, c'est donc de déterminer la composition des éléments. Alors, j'ai remis ouvrage de théologie, il faut se mettre aussi dans l'ambiance de l'époque. Tous les grands scientifiques étaient, on dirait aujourd'hui, des séminaristes. Alors ça ne s'applique pas à Boyle parce que c'est le système anglican, mais ils étaient tous dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des grandes écoles. Au Trinity College ou des choses comme ça, à Cambridge ou à Oxford, au King's College, qui était l'enseignement principal. En France, c'était pareil, c'était la Sorbonne. On faisait de la théologie. Et accessoirement, on faisait un peu d'autres choses à côté. Je rappelle, c'est méconnu, Newton, il a fait une grande œuvre scientifique. Il n'y a que 25% de ses écrits qui sont des écrits scientifiques. 50% sont des écrits théologiques. Et 25% sont des écrits alchimistes, parce qu'il faisait également de l'alchimie. Oh le vilain! Mais il l'avait caché, puisque c'était secret. Mais je vous en parlerai après. Le suivant, c'est Cavendish. Alors Cavendish, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout de suite dans la foulée. Il a découvert l'hydrogène. Alors, le mot hydrogène n'est qu'arrivé après, hein, du temps de Lavoisier. Hydrogène, ben vous savez l'étymologie, ça veut dire hydrogène, ce qui permet de fabriquer de l'eau. Hydrogène. Hein. Lui, il ne l'a pas appelé comme ça, il l'a appelé l'air déphlogistiqué. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors... on vous fait pas ça en chimie parce que c'est défendu de parler du phlogistique depuis 200 ans. Le phlogistique, c'était une idée qu'on avait jusqu'aux années 1800 en disant qu'est-ce que c'est que la chaleur. On ne comprenait pas quelle était la nature de la chaleur. Et donc, pour les chimistes de l'époque, la chaleur était un élément parmi d'autres. Et quand il y avait de la combustion, il y avait du phlogistique qui sortait et du phlogistique qui rentrait. Donc tout ça, c'était un petit peu fumeux, c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré. Et celui qui a flingué la théorie du phlogistique, c'est Lavoisier qui va venir tout de suite derrière. Le début de la chimie a tout été fait autour des gaz. Pourquoi on a fait des travaux sur les gaz ? Tout simplement parce qu'on avait les moyens technologiques de faire ce qu'on appelle aujourd'hui une pompe, c'est-à-dire un cylindre suffisamment précis et dans lequel on pouvait mettre un piston qui ait une étanchéité suffisante et de pouvoir soit comprimer des gaz, soit les détendre. Et ça, on a su le faire physiquement que vraiment au milieu du XVIIIe siècle. Avant, on n'avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les machines-outils. Ça paraît aller de soi, les machines-outils, elles étaient inventées en 1750. Avant, ça n'existait pas. On faisait tout à la main. Et donc, il a découvert déjà que l'air, qu'on considérait comme quelque chose de basique, d'élémentaire, était composé du mélange de deux gaz, de nature différente, l'oxygène et l'azote. Ces deux mots, oxygène et azote, n'étaient pas connus à l'époque, n'étaient pas déterminés à l'époque. Et il a surtout, alors ce qui est surtout extraordinaire, il a réussi à prouver qu'il y avait, en plus de ces deux-là, il y avait une toute petite partie qui était d'autres gaz. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, mais il n'y a pas que de l'azote et de l'oxygène. 1760-70. Il faut quand même lui tirer le chapeau. Donc il a fait des tas de choses, monsieur Cavendish. Entre autres, il a déterminé la densité de la Terre. Alors ça n'a rien à voir avec la chimie. Il faisait des travaux de physique. La densité de la Terre est la constante gravitationnelle universelle qui est tirée de la loi générale de la gravitation de Newton. Et il a commencé à parler un petit peu d'électricité. Je rappelle qu'à l'époque, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, l'électricité, on ne connaissait que l'électricité statique. On a commencé à connaître l'électricité, qu'on dirait dynamique, ou une date magique, elle est facile à retenir, c'est 1800. 1800, c'est la pile de Volta. On a su fabriquer de l'électricité. Et le troisième de la bande, c'est Priestley, et qui, lui, a découvert l'oxygène. Je me suis trompé tout à l'heure. Non, air inflammable. Oui, alors, vous voyez, j'ai été trop vite. L'hydrogène, c'est l'air inflammable. Bon, c'est facile à comprendre avec l'hydrogène. Ça explose, etc. Et l'oxygène, donc l'autre gaz, c'est lui qui est l'air déphlogistique. J'ai dit une bêtise avant. Donc, et air vital. Alors, air vital, c'est le fait, ce que aura déclaré également Lavoisier, on apprend, on comprend, enfin, que l'oxygène séparé de l'hydrogène, c'est ce qui fait, ce qui nous fait respirer, ce qui nous fait vivre. Et après, ça se chipote, comme à l'époque, en disant « c'est moi qui l'ai trouvé le premier, c'est pas vrai, c'est moi, etc. » Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà le fameux Lavoisier. Alors, Lavoisier, on va dire, c'est lui qui a uniformisé les concepts de base de la chimie et surtout qui a inventé la chimie quantitative. C'est-à-dire, on pèse tout ce qu'on on fait des combinaisons entre les corps, on pèse avant et on pèse après. Et on fait des manipulations, on fait de la combustion et des choses comme ça. Et c'est, on lui a fait dire la phrase suivante, rien ne se perd, rien ne se crée, donc c'est la loi de conservation des masses, qui est juste vue d'une certaine altitude. On verra après, un siècle après, que c'est juste, mais quand on est avec beaucoup de chiffres derrière la virgule, c'est faux aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce magnifique tableau qui est célébrissime ? C'est monsieur et madame Lavoisier. Alors, monsieur Lavoisier, ben évidemment, il est beau, il a une perruque, un machin. C'est, je rappelle, il est fermier général. Vous savez, c'était les collecteurs d'impôts sous l'Ancien Régime. Et c'est ça qui lui a valu de subir le couteau républicain, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire d'être guillotiné pendant la Terreur en 1794. Et comme a dit ensuite Laplace, il a dit « Celui-là, il faudra un siècle pour qu'on retrouve une tête à remettre à la place. » Voilà. Donc c'était quand même un génie. Mais j'ai mis, alors moi je mets toujours les dames en évidence dans l'histoire des sciences, c'est la dame, ici, Madame Antoinette Pauls. Son nom de jeune fille, elle s'appelait Pauls. Et elle était la collaboratrice très active de M. Lavoisier. Et en quoi elle était sa collaboratrice? Elle n'était pas là seulement pour rincer les éprouvettes, comme on dit dans les méchantes langues. Elle était là pour traduire toute la correspondance scientifique qu'il y avait déjà en Europe. Et elle maîtrisait 4 langues. Donc c'est elle qui traduisait les correspondances des Priestley, par exemple, ou de Cavendish, qui écrivait en anglais, comme tous les Anglais, hein, ils savent qu'écrire en anglais. Et bon, voilà, elle traduisait. Et surtout, elle avait, je vais vous le montrer après, un talent extraordinaire, elle savait faire la gravure. Et toutes les planches du traité de chimie de M. Lavoisier ont été gravées, non seulement dessinées, vous savez ce que c'est que la gravure, avec les petits burins, ont été gravées sur des plaques de cuivre par Mme Pauls. Donc, c'était une bonne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Lavoisier? Lavoisier, il a repris un certain nombre de travaux qui étaient déjà en cours, et en particulier en France, d'un bourguignon. Je regarde la pendule, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de M. Guiton de Morvaux? Je m'adresse surtout au prof. M. Guiton de Morvaux. Ah! Vous allez apprendre quelque chose. M. Guiton de Morvaux, c'était le Lavoisier bourguignon. Il était à Dijon et il travaillait dans le cadre de l'Académie de Dijon. Ça, on oublie aussi. Vous connaissez tous l'Académie des sciences qui a été fondée par Colbert en 1666. Il y a aussi l'Académie de Dijon, qui est l'équivalent. C'était la deuxième académie en France. Et la deuxième Académie des sciences qui a eu son heure de gloire en 1750, parce qu'il y a un gars qui était complètement inconnu au bataillon, qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, qui a fait un mémoire sur l'intérêt de la démarche scientifique, où il a flingué la démarche scientifique. Ben, c'est un philosophe, hein, mais qui a eu un impact européen et qui a fait de la pub et pour l'Académie de Dijon et pour Jean-Jacques Rousseau. Et donc, l'Académie de Dijon, à l'époque, c'était l'équivalent de l'Académie des sciences de Paris. On a oublié ça. Et M. Guiton de Morvaux, c'est lui qui a fait la première liste des éléments qu'a recopié M. Lavoisier. Ils travaillaient ensemble. 1783, Lavoisier, 1789. Et M. Guiton de Morvaux, il a eu son heure de gloire aussi. Alors lui, il était plus malin que Lavoisier, il est passé à travers les mailles du filet, il était au comité de salut public. Au comité de salut public, vous avez appris ça en histoire, pendant la Révolution. Et M. Guiton de Morvaux, il a été le premier à Dijon, trois mois après Pilâtre de Rosiers à Paris, dans la Montgolfière, a monté lui-même tout seul, il était avec une autre personne, j'ai confiance dans la Montgolfière, au lieu de mettre une chèvre et un poulet, il est monté lui-même tout seul et il a fait un vol de 15 km depuis la place d'armes de Dijon. Monsieur Guiton de Morvaux, retenez bien ce nom-là, c'est un gars qui a été injustement oublié. Et Monsieur Guiton de Morvaux, il avait une copine qui s'appelait Madame Picardet, qui connaissait cette langue et qui traduisait toute sa correspondance scientifique. Alors c'était bien sa copine, puisque elle s'appelait Madame Picardet, donc elle était la femme de Monsieur Picardet. Et c'était pas la femme de Monsieur Guiton de Morvaux. Alors quand Monsieur Picardet est mort, elle a épousé Monsieur Guiton de Morvaux. L'honneur était sauf. 1798. Bon, c'est pas de la chimie, mais là c'est l'aspect people, c'est la séquence people de la conférence. Voilà. Voilà. Mais je voulais parler des scientifiques locaux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Lavoisier? C'est bien sûr, j'ai l'impression de le minorer, non, c'est quand même le père de la chimie moderne. Donc, il a dit, eh bien, dans l'eau, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et il a utilisé le mot oxygène. Alors là, il s'est planté. Oxygène, l'étymologie d'oxygène, ça veut dire pointu. Il pensait que c'était l'oxygène qui était la source de l'acidité. Donc, les découvertes suivantes ont montré que ce n'était pas vrai. Et donc, c'est l'hydrogène. C'est les protons. Ouais, bon. Mais enfin, quand on est scientifique, on peut se tromper. Et il suffit qu'après, les suivants réfutent les assertions des précédents et le démontrent. Donc, la chimie quantitative. Alors, si vous voulez bien connaître Lavoisier, vous allez à Paris, au musée du Conservatoire National des Arts et Métiers, où on a reconstitué, depuis les années 90, à l'échelle 1, tout neuf comme le 1, les magnifiques balances qui font 4 mètres de haut, qui pesaient au millième de gramme en 1789. Au millième de gramme. C'était quand même pas mal. Et elles sont magnifiques, tout en cuivre et en laiton. Extraordinaire. La loi de la conservation des masses, le traité de chimie. Et dans le traité de chimie, on a, pour la première fois, vous allez me dire, mais où il veut en venir ? Donc, je vais en venir au tableau. Alors, il n'y avait pas encore de tableau, il n'y avait qu'un listing. Voilà. Et donc, ce qu'on connaissait à l'époque. On lit les lignes, là. On ne voit pas bien, mais la première, il y a la lumière. On disait, la lumière, c'est un élément, un corps. Bon, bah oui, pourquoi pas, hein. Et ensuite, il y a le calorique. Alors, on avait enlevé cet horrible mot de phlogistique, donc on a mis le calorique. Mais on ne savait toujours pas très bien ce que c'était. Et ensuite, bah, vous retrouvez le oxygène, azote, hydrogène, soufre, phosphore, carbone, radical muriatique. Muriatique, c'est l'acide nitrique, hein, c'est ça ? Je dis ça de mémoire. Etc., etc., boracique, l'antimoine, l'argent, l'arsenic, le bismuth, le cobalt, le cuivre, l'étain, le fer, le manganèse, le mercure, le molybdène, le nickel, l'or, le platine, le plomb, le tungstène, le zinc. Vous voyez, pour l'essentiel, c'était des métaux. Il y a quelques... il y a le calcium, je crois, il y a la chaux, enfin on l'appelle pas ça le calcium, c'est la chaux, la magnésie, la barite, l'alumine et la silice. Qui n'étaient d'ailleurs pas des corps simples. Pas des éléments, mais ça on ne le savait pas à l'époque. Donc ça avait au moins un socle qui était bien organisé. Et ensuite, dans le traité de chimie, donc je vous ai montré tous les appareils qui servaient à déterminer les connaissances de l'époque. On avance. Donc on a passé au 19e siècle et on a commencer à parler de valence, c'est-à-dire on s'est rendu compte, les chimistes se sont rendus compte, qu'il y avait des rapports de nombres entiers dans les combinaisons entre les éléments. C'était pas des proportions farfelues, c'était des proportions qui étaient des multiples de nombres entiers. Et donc vous connaissez le concept de valence. Le concept de valence, bien, c'est d'associer le nombre de corps qui peuvent s'associer avec un autre. Donc là, NO, par exemple, on prend ce cas-là. Donc on dit que là, l'azote a la même valence que l'oxygène. Et là, NO2, NO3, NO4, NO5, etc. Donc c'est les lois de combinaison des corps entre eux. On ne savait pas... Alors, ce concept de valence subsiste jusqu'à aujourd'hui, mais on n'en connaissait pas la signification profonde. C'était simplement un constat vu de l'extérieur. Alors voilà encore une grande étape qui arrive, et c'est là, c'est M. Dalton qui remet les atomes en selle. M. Dalton, alors pourquoi M. Dalton, ben il a inventé le daltonisme, tout simplement parce qu'il était le daltonien. Et il a eu conscience qu'il avait cette déficience visuelle. Et donc, on a donné le nom de sa maladie, le nom de la personne qui a trouvé ça. Monsieur Dalton, c'est un Anglais, évidemment. Et il a dit, eh bien, il y a des atomes et qui sont insécables, par définition, puisque c'est la signification du mot atome, et qui s'assemblent comme ça. Et ça explique la notion de valence. Puisque Une bille peut s'associer à deux billes ou à trois billes, etc. etc., etc. Donc on manipule que des nombres entiers. Il a su comprendre que certains corps pouvaient, donc la différence entre une molécule et un élément. C'est-à-dire, on peut dire, ben, il y a un élément, mais qui peut être constitué de deux atomes. Et ça, pendant tout le début du 19e siècle, c'était la brasse coulée, parce que des gens appelaient molécule ce qui était un atome, et des gens appelaient atome ce qui était une molécule. Donc, dans la littérature, c'était un petit peu le bazar. Voilà. Alors, il a fait des tas de choses. La loi de comportement des gaz qu'il a sophistiquée, c'est la loi de Boyle. La loi des proportions définies, ben c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est les nombres entiers. La table des poids atomiques relatifs. Donc, il a également dans ce listing de dire, ben, je sais faire des poids relatifs, je vais essayer de les classer non pas par ordre alphabétique, mais par ordre croissant des masses atomiques ou moléculaires. Là, c'était pas très clair. Description de différentes molécules, le daltonisme. Alors voilà les grandes lois, les grandes déclarations de machin. Les atomes de différents éléments sont identiques pour un même élément et différents par leur poids atomique. Identiques, c'est-à-dire tous les atomes sont pareils. Ça, il fallait le dire. Les atomes de différents éléments peuvent s'assembler pour former des composés, c'est le petit dessin que je vous ai montré, qui a toujours les mêmes composants pour les mêmes propriétés. C'est-à-dire, si je fais un petit dessin avec une bille au milieu et trois billes autour de tel ou tel élément, ça sera tout le temps comme ça, et ce composé-là, il aura toujours les mêmes propriétés. C'est le premier qui l'a dit, 1820. C'est 1810-1820. Vous voyez, c'est quand même pas si vieux que ça. Une réaction chimique fait changer les atomes des composés, mais ceux-ci, avec une belle faute d'orthographe, ne peuvent être individuellement modifiés ni décomposés. Alors ça aussi, c'est un saut conceptuel et psychologique. Et les éléments sont faits d'atomes. Non, c'est cas, ben c'est, je réponds à nouveau à la question qui est évoquée tout à l'heure. En voilà un autre, dont vous avez dû entendre parler, Avogadro. Alors, ce monsieur, je vous refais une petite séquence people. Là. Monsieur Avogadro, vous voyez, ben, c'était un playboy manifeste. On n'a pas beaucoup d'autres représentations. C'était, il faisait un carton près des nanas. C'était un homme à femme. Bon, ben, c'est peut-être la science qui les attirait. Hein, voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, Avogadro, c'est un chimiste qui travaillait à Turin. Donc, à Turin, à l'époque, c'est y a un gars qui s'appelle Napoléon, qui a annexé tout le Piémont. Et à Turin, on parle français. Et tous les travaux de M. Avogadro, italien pur jus, sont écrits en français. Vous savez ça? Bon, ben je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, M. Avogadro? Eh bien, il a fait une hypothèse. Une hypothèse qui est complètement barjot et qui est contre-intuitive en disant les molécules, qu'elles soient grosses, petites et tout, dans un même volume, dans les mêmes conditions de pression, il y a le même nombre de molécules dans la même unité de volume. C'est vraiment une hypothèse. Il n'a pas de base expérimentale pour dire ça. Mais c'est un postulat qui pose, et ensuite on s'aperçoit qu'avec tous les travaux qui ont été faits derrière, ça valide cette hypothèse d'Avogadro, et on sait depuis M. Boltzmann, à la fin du 19e siècle, la théorie cinétique des gaz, la thermodynamique et tout, que c'est juste. Mais M. Avogadro, c'est purement une réflexion spéculative. Donc merci M. Avogadro. Voilà. Et donc, une des applications de l'hypothèse d'Avogadro, c'est la méthode de Meyer qu'on a dû vous apprendre, vous avez faite, non ? Vous l'avez faite, la méthode de Meyer ? Non. Méthode de Meyer de détermination des masses moléculaires en phase gazeuse. Je vais en parler de Meyer. Alors, ensuite, Berzelius. Berzelius, c'est un pharmacien suédois qui a dit, eh bien, à l'époque, on a déjà découvert, je vais vous expliquer pourquoi, de 1800 à 1820, là, c'était l'explosion, on a découvert une vingtaine ou une trentaine de nouveaux éléments qui n'étaient pas connus avant, je vous ai expliqué pourquoi. Mais donc, lui, il le savait, d'ailleurs, il a contribué à en découvrir certains, il a dit, ben, on va essayer de mettre une nomenclature pour désigner ces éléments. Et voilà ce qu'il a fait. 1820 à peu près. Vous regardez la liste, les symboles qu'il a proposés en 1820, à 90%, c'est toujours ceux qu'on utilise aujourd'hui. Merci, monsieur Berzelius. Donc, deux lettres, une majuscule, et une petite. Et c'est le début du nom de l'élément. Donc, aluminium Al, ouais, c'est génial, hein. Argent Ag, arsenic As, bon, il a sauté le R, l'or c'est Au, et c'est le nom latin, le barium Ba, le bismuth Bi, le bore B, le calcium Ca, ah, c'est extraordinaire, c'est exactement les symboles que... Monsieur Berzelius, un pharmacien, voilà. Et donc, il y a quelques éléments dont on a changé le nom pour des raisons diverses. Alors, on monte encore d'un étage, monsieur Doberheiner, un Allemand, comme son nom l'indique. Une fois que cette classification est faite, donc j'ai toujours le listing, je classe les éléments par ordre croissant de masse moléculaire, et j'observe les choses et c'est bizarre, je constate des périodicités. C'est la première fois que le mot apparaît en disant, ben tiens, quand je vais de cette ligne-là à cette ligne-là, ce corps-là, il ressemble furieusement au niveau du comportement, celui de la ligne 3, lignes au-dessus. Et puis c'est pareil en dessous. Tiens, c'est marrant, il y a un truc. Il y a une périodicité. Donc, voilà, le chlore, le brome, l'iode, le calcium, le strontium, le barium, le soufre, le sélénium, le tellure, le lithium, le sodium et le potassium. Il y a un truc. Mais il n'est pas allé plus loin. Celui qui est allé plus loin, c'est un Français, vive la France. C'est Alexandre-Émile Béguillet de Champcourtois. Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler comme ça. Décoré comme un sauveteur. C'est un géologue. Et qui a le premier... trouver la périodicité de 8, qui va être le socle du tableau de Mendeleïev. Et donc, comment il l'a déposé ? Lui, c'était un intellectuel. Il a fait son tableau comme une hélice sur un cylindre. C'est pas très pratique pour mettre au tableau et afficher sur le mur du labo de chimie. Donc, c'est resté confidentiel. Alors voilà, là je fais une petite marche arrière, donc 1800-1820. Alors celui-là, il faut le connaître. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom-là ? Humphry Davy. Alors Humphry Davy, c'est l'équivalent de Lavoisier en Grande-Bretagne. Il a découvert plus de 10 éléments nouveaux. Comment ? Ben, tout simplement grâce à M. Volta. M. Volta a fait la pile électrique et a découvert l'électrolyse, la décomposition des corps sous l'effet d'un champ électrique. Il a fait une pile à la Volta, mais dans son labo. Au lieu de mettre une dizaine de rondelles, vous savez comment est faite la pile de Volta, la pile c'est une pile, hein, il y a du zinc, du cuivre, et puis des tissus mouillés entre les éléments, et puis quand on met un voltmètre qui n'existait pas à l'époque, et on voit qu'il y a une tension, et on peut faire circuler un courant dans un circuit extérieur. Lui, il n'a pas fait dans la dentelle, il a fait 400 éléments. Donc il avait des tensions énormes et il a découvert tous les alcalins, le sodium, le potassium, etc. Il a découvert que le chlore, alors ça c'était un sujet qui était, le chlore était un élément, et on a très longtemps cru jusqu'à Humphrey Davy que c'était un corps composé. Aujourd'hui, il y a la médaille Davy qui est toujours décernée par la Royal Society. Vous connaissez la Royal Society, c'est l'équivalent de l'Académie des sciences dans laquelle Newton a été. C'est tout à fait contemporain. la Royal Society, la médaille Davy, dans le Royaume-Uni, c'est l'équivalent du prix Nobel. C'est la plus haute distinction scientifique. Et accessoirement, il a inventé la lampe de Meissner. La lampe de Meissner, qui est une lampe à pétrole, on va dire. Il n'y avait pas de pétrole, mais enfin une lampe à huile, et avec un petit grillage qui empêche la propagation de la flamme dans les mines, avec le problème du grisou et des coups de poussière. Alors, Newland a dit, j'ai pas bien regardé la table, là, vous savez, d'Oberheiner. En fait, la vraie périodicité, c'est pas de 3, c'est de 8. Pourquoi il y a eu cette confusion? Parce que, on l'a su après, dans le tableau, il fallait laisser des trous. Et ça, c'était la grande invention de M. Mendeleïev. Et comme on pouvait remplir beaucoup plus de cases, eh bien, la périodicité, en fait, était de 8. Et voilà, M. Meyer, que j'évoquais tout à l'heure, Lothar Meyer, qui, quasiment indépendamment de Mendeleïev, a proposé exactement le même système, et d'une façon sans se connaître mutuellement. On attribuait uniquement à Mendeleïev, parce que Mendeleïev a publié, alors que Lothar Meyer n'a pas publié, et c'est ses descendants qui l'ont publié à titre posthume. Aujourd'hui, dans la communauté scientifique, on dit le tableau de Mendeleïev-Meyer. Et il a eu, vous voyez, la médaille Davy avec Mendeleïev, mais il était mort depuis un moment. C'est pas comme le Nobel, là, on donne des médailles aux morts. Hein. Je rappelle, le Nobel, on ne met pas de médaille aux morts. Hein. Voilà. Alors voilà. Alors, c'est pas difficile de deviner que c'est un Russe. Il suffit de le regarder. Hein. Quand il était jeune, il n'avait pas de barbe. Mais là, il ressemble à un pop à partir de l'âge de 40 ans. Et donc, voilà. Donc, des photos et des tableaux, puisqu'il a été célèbre de son vivant, et donc il a été portraituré par tous les grands peintres russes de l'époque. Alors, là, je vais lire explicitement les phrases qui sont mises, qui sont les phrases, traduites en français, du traité de Mendeleïev. Les éléments, lorsqu'ils sont disposés selon leur poids atomique, montrent une périodicité apparente de leurs propriétés. Ça, ça avait été vu par les prédécesseurs. Donc, il reprend simplement les connaissances acquises. Les éléments qui sont semblables en ce qui concerne leurs propriétés chimiques ont des poids atomiques qui sont peu ou prou de la même valeur ou qui augmentent régulièrement. Alors, s'ils sont peu ou prou de la même valeur, ça veut dire je suis sur une horizontale du tableau. Si qui augmente régulièrement, c'est je suis dans une colonne. L'arrangement des éléments ou des groupes d'éléments dans l'ordre de leur poids atomique correspond à leur prétendue valence. Il a eu l'honnêteté de dire prétendue valence, qui est un concept qui était, hypothétique. Aussi bien que, dans une certaine mesure, à leurs propriétés chimiques distinctives. Les éléments qui sont le plus largement représentés ont de petits poids atomiques. Alors ça, c'est nouveau. On le sait aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui existe le plus dans la nature? C'est les éléments de petits poids atomiques, c'est-à-dire l'hydrogène, le lithium, le potassium, le sodium, enfin le bas du tableau, enfin la gauche du tableau de Mendeleïev. L'importance du poids atomique détermine le caractère de l'élément, de même que l'importance de la molécule détermine le caractère d'un corps composé. Il ne fait que reprendre les lois de Dalton. Nous devons nous attendre, alors c'est la grande innovation de Mendeleïev, nous devons nous attendre à la découverte de nombreux éléments jusqu'ici inconnus. Il en remet une couche, c'est-à-dire même avec tout ce que Davy et ses collègues ont trouvé au début du 19e siècle, il y a encore des trous dans les mailles du filet. Et ça, ce n'était pas capté par la communauté scientifique à l'époque. Et donc, il dit, si je refais un tableau en mettant des trous, c'est-à-dire avec des choses, parce que comment il fait pour faire des trous? Simplement parce que pour certains corps, ben, la masse atomique de celui qu'on connaît, c'est par exemple 65, puis le suivant qu'on connaît, c'est 75. Donc, c'est pas possible, il en manque au milieu. Donc, on va laisser des cases blanches. Voilà. Ce que les autres n'avaient pas fait. Donc, c'est pour ça que c'était difficile de percevoir bien la périodicité. D'ailleurs, dans certains cas, comme il y avait des incertitudes sur la détermination de la masse atomique, il a inversé deux chiffres parce qu'il a privilégié la similitude des propriétés et non pas la valeur numérique connue à l'époque de la masse atomique ou moléculaire. Et donc, voilà un exemple célèbre. Pour dire ben, comment j'appelle celui qui est dans une case vide, il ressemble au silicium, ça se dit en anglais silicone, hein, et je l'appelle Eka silicium. Eka, ça veut dire pareil en sanskrit. Vous savez, le sanskrit, c'est la vieille langue indienne. Eka silicium, donc je déduis que. Il doit être gris, qu'il doit fondre à 800 degrés, qu'il doit avoir une masse de 72, qu'il doit avoir son machin, et voilà les valences qu'il présente vis-à-vis de l'oxygène et du chlore. Et après, ben finalement, on a fini par le découvrir, et on l'a appelé le germanium. Pourquoi on l'a appelé le germanium? Parce que c'est un Allemand, évidemment, qui l'a trouvé. Donc, il y a du francium, il y a du germanium, il y a du californium, il y a du... Hein, donc, chacun a mis son petit drapeau sur les éléments qu'il avait trouvés. Voilà. Donc certaines propriétés caractéristiques des éléments peuvent être prévues à partir de leur masse atomique, même si physiquement on n'a pas réussi à isoler l'élément. Alors, donc c'était un bon boulot, merci monsieur Mendeleïev. Et il y a deux choses qu'il n'avait pas vues, mais il n'avait pas les éléments pour le voir. Ces deux curiosités dans le tableau, c'est les gaz rares, je vais y venir. Et les lanthanides, et après les actinides, je vais en parler. Ah voilà le tableau de Mendeleïev, tapé sur une machine à écrire en russe. Oui, c'est en russe. Il n'y avait pas de machine à écrire en 1869. Donc ça, c'est un truc qui a été tapé plutôt au début du XXe siècle. Voilà le manuscrit de M. Mendeleïev. C'est comme ce que vous écrivez sur vos cahiers. C'est un peu tout raturé. Voilà la même chose écrite en alphabet latin. Voilà encore plus clair, etc. Et vous voyez qu'il y a des cases où il a mis des points d'interrogation. Et voilà la représentation sous la forme d'une matrice d'un tableau. Et voilà la forme moderne du tableau de Mendeleïev, qui s'est affiné donc à fin du 19e et dans la première moitié du 20e. Alors sur ce tableau, il est sympa parce qu'il y a des couleurs là qui donnent les dates de découverte des éléments. Avant 1800, vous voyez, c'est du gris clair. Ben, regardez dans le tableau, le gris clair, c'est 25%. Hein, on ne connaissait pas grand-chose finalement. 1800-1850, c'est le vert clair là. Donc c'est tout ce qu'on a trouvé un petit peu souvent par électrolyse. 1850-1900, c'est le violet. Hein? Et 1950-2010, donc jusqu'à maintenant, ben c'est tout le reste. Et en particulier dans le violet, vous voyez, il y a toute une série de machins bizarres, là, qui pour des raisons que je vous expliquerai à la fin si j'ai le temps... j'ai encore une demi-heure là, hein, petite demi-heure. On a été obligé de coincer avec un chausse-pied ces deux séries. Il faut les mettre uniquement dans cette case-là. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Et ça, cette série-là, ça s'appelle les lanthanides. On appelle souvent ça dans les journaux les terres rares, qui sont pas si rares que ça, mais elles sont mélangées avec tout un tas d'autres éléments, c'est-à-dire elles sont en quantité infinitésimale dans d'autres minerais, c'est pour ça qu'on les appelle rares. Et puis la deuxième série, ce sont les actinides, donc dans lesquels il y a des corps radioactifs. L'actinium, le thorium, le protactinium, l'uranium, le neptunium, le plutonium, l'américium, le curium, le berkelium, les autres, je ne me souviens plus que ça, voilà. Alors, M. Mendeleïev, de son vivant, a été reconnu, son tableau a été reconnu par la communauté internationale, et il a été statufié, au sens propre et au sens figuré. Voilà sa statue, ça c'est une photo que j'ai prise moi-même à Saint-Pétersbourg, donc il habitait à Saint-Pétersbourg, et donc il trône sur son trône, là, et évidemment sur le bâtiment qui est juste à côté, on a collé le tableau de Mendeleïev. Puis là, c'est un machin un peu kitsch, là, qui est à Bratislava. J'ai trouvé sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Mendeleïev ? Il a fait le tableau de Mendeleïev. Ben oui, mais il a fait des tas d'autres choses, parce que c'était des scientifiques un petit peu universels. Il a fait de l'hydrodynamique, il a fait des études sur la capillarité, il a fait de la météorologie, il a travaillé sur le pétrole. Il a inventé le pyrocollodion. Alors, vous savez ce que c'est que le pyrocollodion ? Eh bien, c'est la base des explosifs modernes, la nitrocellulose. Hein ? Le fondateur de la Société russe de chimie, l'introduction du système métrique en Russie, il fallait un outillage pour le faire, parce que pour faire, donc ils étaient très en retard. Donc, il a obtenu ça, et pour mettre la cerise sur le gâteau, c'est lui qui a défini la composition standard de la vodka. Évidemment, il est russe et il est chimiste. Alors là, j'ai mis ce que j'appelle l'affreux jojo de la chimie française, Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot, c'était le chimiste vedette de la fin du 19e siècle en France. C'était le mandarin total. Et lui, il était contre la théorie atomique. Et il a dit Mendeleïev. Et le premier qui met un symbole chimique dans une copie de chimie, il a la bulle. Il a obligé tous ses disciples à avoir la même attitude. C'est là que la chimie française a pris 50 ans de retard et que les Allemands sont passés devant à la vitesse grand V. Merci M. Berthelot. C'était en dehors de ça un excellent chimiste et un très bon chimiste, mais quantitatif. Qualitatif, c'est-à-dire les atomes, j'y crois pas, montrez-les-moi, là j'y croirai. Donc il revenait à l'Antiquité, comme je les vois pas, ça n'existe pas. Donc moi je l'appelle l'affreux jojo de la chimie française. Les conséquences, la chimie, bon, ben, on dit, ben, ça y est, Mendeleïev a tout trouvé, c'est bon, on a tout compris, c'est le nirvana. Que dalle! Que dalle, que dalle, c'est ça. On a découvert que ce tableau, c'était le socle de la physique moderne. Mais ça, on l'a découvert, M. Mendeleïev était mort depuis longtemps. Alors, comment ça s'est passé ? Bien évidemment, M. Berthelot, il avait raison de faire des caprices. Il faut absolument qu'on trouve qu'est-ce que c'est que les atomes, donc il faut qu'on essaie de trouver des systèmes pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces atomes. Alors, indépendamment de, c'est bien sûr des physiciens, Monsieur Thomson, Joseph John Thomson, donnez bien toujours les prénoms pour les Thomson, parce que des Thomson dans la science anglaise, il y en a à l'appel. Donc on se prend les pieds dans le tapis en permanence. Donc c'est celui-là, celui qui a les moustaches, là, comme ça. Donc ça, je nomme en commun. Donc, il a découvert l'électron. Donc il y a un petit corpuscule à qui on attribuait conventionnellement une charge négative, et il a découvert l'électron. Il a dit, ah ben ça y est, maintenant, on va Je peux faire un modèle de voilà. Et il a inventé une machine qui s'appelle le spectroscope de masse. Voilà le dessin de cette machine. Vous savez ce que c'est que des ions, hein ? Des ions, c'est des molécules qui sont chargées électriquement. On a enlevé quelques électrons dans la couche périphérique. Et en phase gazeuse, on les met dans une petite boîte, là. Et on met un accélérateur avec un champ électrique qui fait un faisceau d'électrons. Un faisceau d'ions, plus exactement. Et ce faisceau d'ions, on le fait passer dans un champ magnétique qui est orienté d'un perpendiculairement au plan. Comme c'est chargé, eh bien, on regarde ce qui se passe à la sortie. Et aux surprises, c'est le même corps qui est là. Et puis, on devrait voir qu'un point ici. Et là, on en voit plusieurs. Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ce machin encore ? Qu'on n'avait jamais imaginé. C'est ce qu'on a appelé après des isotopes. Je vais vous en reparler. Donc, ça a été, il a découvert ça. Il n'avait pas été capable d'interpréter ses résultats. Mais il y avait des suivants. Voilà, alors la moustache n'est pas descendante. Rutherford, il faut bien utiliser. Donc, celui-là, c'est un Néo-Zélandais. Donc, à l'époque, ce n'était pas Internet. Il fallait 4 mois pour aller de la Nouvelle-Zélande à Oxford pour faire ses études. Il a passé 4 mois, il a fait ses études à Oxford et il a fait toutes les belles découvertes que je vais vous décrire. Donc Thomson pensait que l'atome était fait comme ça. C'était le modèle plum pudding, évidemment, c'est anglais. Hein. Donc c'est une espèce de gélatine dans laquelle il y a des électrons. On ne sait pas trop comment c'est fait. Et puis la gelée, là, elle est positive pour neutraliser la charge électrique des électrons. Puisque quand l'atome n'est pas ionisé, il est neutre électriquement. Monsieur Rutherford, il a fait des expériences géniales qui lui ont permis de démontrer qu'il y avait un noyau. C'est-à-dire l'atome, ce n'est pas une gelée et un plum pudding, c'est un truc plein de vide. Il y a un noyau au centre, puis très loin, des électrons qui tournent autour. Et il a découvert les différents types de radioactivité. Donc je vous donne la date, ça doit être 19... Alors le Nobel est en 1908, mais ces découvertes-là, ça date de 1905-1906. Donc, on avait déjà découvert la radioactivité, je rappelle, Marie Curie a découvert la radioactivité à la fin du 19e siècle avec son mari Pierre Curie et avec Becquerel. Donc ils ont eu tous les trois le prix Nobel après toute une histoire, mais que je vous raconterai, j'ai une conférence sur les prix Nobel, mais on n'a pas le temps. Il voit que la radioactivité, on peut la... il ne s'est pas fendu le tronc, hein, il a fait alpha, bêta, gamma. Hein, je ne sais pas quoi mettre comme lettre, mais alpha, bêta, gamma, ABC. Donc alpha, c'est le noyau d'hélium, bêta, c'est des électrons, on l'a su après, c'est des électrons, et gamma, c'est des rayonnements électromagnétiques. Ah, on prend la suite, mais là, ça s'est passé à quelques années d'intervalle, donc Moseley. Ah, Moseley, un très grand scientifique anglais. Pourquoi on l'a oublié ? Parce qu'il est allé se faire tuer dans les batailles de la guerre 14-18. Je rappelle qu'il y avait des Anglais hein, sur les fronts de la guerre. Et lui, il a fait avancer le modèle du noyau atomique. Ensuite, Glover Barclay, encore un Anglais, qui a découvert les couches électroniques, c'est-à-dire suivant les différentes masses atomiques, eh bien, on a plusieurs couches électroniques qui sont concentriques les unes avec les autres. On pensait ça à l'époque. Hein. Voilà. Et voilà le modèle standard qu'on appelle le modèle de Bohr. Hein. Donc Bohr, c'est un physicien danois, qui a eu aussi un prix Nobel. Et donc, l'image est complètement fausse parce qu'on a l'impression que le noyau est énorme et puis que les électrons sont juste à côté. Si le noyau il est comme ça ici, l'électron il est à 100 mètres. Donc l'atome c'est plein de vide. Alors voilà les couches électroniques. Les couches électroniques 1, 2, 3, 4, les K, L, M, N. Et oh, tac, il y a un numéro qu'on a vu depuis déjà 50 ans, 8. Tiens, il y a une corrélation entre le nombre d'électrons qui sont sur une certaine couche et le fait qu'il y ait une périodicité dans les propriétés. Bingo, ça y est, j'ai tout compris. Pourquoi on a cette périodicité ? Ben, tout simplement qu'il y a plusieurs couches à 8, et que les lignes, ben ça correspond, j'ajoute un électron sur telle couche, un électron, deux électrons, trois électrons, quatre électrons, cinq électrons, huit. La couche est complète, j'en fais une de plus, et c'est reparti. Retour à la ligne, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Génial. Merci, monsieur Mendeleïev. Ça, on a compris ça en 1925. Monsieur Mendeleïev, 1869. Donc, le tableau de Mendeleïev, c'est le socle également de la physique nucléaire. Mais ça, il ne pouvait pas le deviner. Alors, le groupe des gaz rares, donc je vais vous le montrer. Les classements par numéro, voilà. Alors, voilà les isotopes. Qu'est-ce que ça veut dire, isotope ? Est-ce que vous êtes posé déjà cette question ? Eh bien, il faut faire de l'étymologie iso. Ça veut dire pareil. Et top, ça veut dire quoi ? Topo, topologie. Ça veut dire le lieu, le même lieu, c'est-à-dire les éléments qui sont dans la même case du tableau de Mendeleïev. Isotope, ça veut dire je suis dans la même case du tableau de Mendeleïev. Donc le tableau de Mendeleïev, c'est pas un truc plat, c'est qu'il y a des tiroirs en profondeur devant et derrière. Et qui est-ce qui a trouvé cette idée géniale ? Ben c'est une femme, vous voyez, j'en mets toujours. C'est Margaret Todd, qui est une collaboratrice de Soddy. Et c'est Soddy qui a eu le prix Nobel. Et elle, on n'a pas parlé, donc j'en parle. Voilà, pour dire, c'est elle qui avait trouvé le nom. Alors voilà le diagramme qu'on appelle NZ. En lycée, on ne le fait pas, ça. Mais si, ah bon! Donc vous connaissez ça. Ah, ben alors au moins, je suis content, parce que j'étais persuadé qu'on ne le montrait pas en lycée. Donc si vous le connaissez, c'est pas la peine que je vous l'explique. Donc c'est un mode de représentation, justement, de montrer la liste des isotopes. Et donc, derrière tout ça, ben, il y a eu encore une étape supplémentaire, ben, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est... hélas, ou je sais pas, grâce ou à cause du développement de la bombe atomique américaine, tous les travaux ont été faits par les scientifiques aux États-Unis entre 1939 et 1945, et qui ont permis de remplir toutes les cases du bas que je vous ai montré. Et parmi tout cela, c'est Glenn Seaborg qui a eu la chance d'avoir de son vivant, c'est le seul, un élément qui est nommé d'après son nom. Et donc on le voit avec une photo, 2 ans avant qu'il meure, mais ça on le savait pas, il est mort très vieux, et donc on le voit, il est tout comme ça, puis il montre le nom de son cyborgum. Ah, évidemment, comme c'est surtout les Américains qui ont bossé, ben évidemment, il y a américium, curium, berkelium, californium, bon, on a... Pour faire plaisir à tout le monde, ben on en a mis pour tout le monde, einsteinium, fermium, mendeleevium, nobelium. Et voilà un mode de représentation du tableau, mais j'arrive. Alors celui qui est affiché dans les classes de chimie, c'est celui-là. C'est le mode de représentation. Parce que à l'heure actuelle, il y a 1240 versions différentes du tableau. Donc vous avez le choix. Vous allez sur Internet, des longs d'un... tordu en 8, en machin. Bon, il y a des gens qui sont fêlés et qui inventent des machins bizarres. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui manquait ? Ben, c'était ça. Monsieur Mendeleïev, il ne pouvait pas deviner ça. Et donc, ces éléments, ces gaz rares, ils ont la particularité que la couche externe, elle est pleine. Il y a 8 électrons ou plus, mais ils ont la particularité de ne pas pouvoir se lier chimiquement à d'autres éléments parce que la couche extérieure est pleine. Voilà. Alors, on a presque le temps. Alors là, vous avez votre téléphone, là, monsieur, pour faire de l'Internet, là. On reviendra après. Hein. Essayez de me brancher. Ah, il est là ? Ah, ça y est ? Bon, on fait l'essai. Oui, donc ça, je vais vous le communiquer, c'est en PDF, hein, et donc le lien est actif, vous pouvez cliquer dessus, ça vous branche sur un site internet qui est interactif, qui vous permet d'avoir toutes les propriétés de chacun des éléments. C'est encore une chinoiserie, ça. Bon, ça fait rien. Vous avez compris le principe. Bon, c'est pas très grave. Il veut pas ? Bon, ça fait rien. Ça n'a pas d'importance. Non, mais laissez tomber. Va. Ça fait rien. On va essayer d'avoir 10 minutes pour les questions. Hein? On laisse tomber. Non. Bon, donc j'arrive à la conclusion. Donc, j'ai essayé de vous montrer non seulement l'intérêt, et surtout la progression des idées, si vous voulez. C'est ça, l'histoire des sciences, c'est ça. Individuellement, sauf cas rarissime, quelqu'un ne fait pas une découverte comme ça en se levant le matin, Eureka, ça y est, j'ai tout compris, j'ai tout trouvé. Non, c'est un processus continu et qui s'appuie sur les travaux des prédécesseurs. C'est pour ça que l'échange d'informations entre les scientifiques, c'est la base, le socle de la méthode scientifique. Dès qu'on cache la copie, le progrès s'arrête et on n'avance plus. Et donc, même des gens comme géniaux, comme je cite la phrase qu'on cite tout le temps, parce que Einstein, on le met à toutes les sauces, donc Einstein a dit « Je suis assis sur les épaules des géants ». Ça n'empêche pas que sa contribution était essentielle à tout ce qu'il a fait, mais tout ce que j'ai fait n'a pu se faire que parce que tous ceux qui étaient avant moi ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc c'est un processus. Alors quelquefois la marche d'escalier est un petit peu plus haute, et puis on dit ah bah oui, celui-là vraiment il a fait faire un grand pas en avant. Donc monsieur Mendeleïev, ça a été un petit peu le cas. Disons sa contribution essentielle, c'est vraiment les cases vides. Et de dire je fais un tableau où je privilégie l'analogie des propriétés physiques et chimiques dans les colonnes. Et puis si le chiffre va pas bien, ben, je le mets dans la bonne case pour que ça aille bien. Un truc qui a beaucoup troublé les gens, les isotopes, c'est le chlore. Le chlore, il a la désagréable propriété d'avoir une masse atomique de 35,5. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il n'y a que des nombres entiers, et là, il y a 35,5. On a mis du temps à comprendre. Pourquoi 35,5 ? Parce que le chlore a une particularité. Il a deux isotopes à peu près à 50% qui font et 35 et 36. Et donc, quand on fait la moyenne, ça fait 35,5. Mais ça, il a fallu qu'on ait les masses atomiques, d'abord de vérifier dans le spectromètre de masse que je vous ai montré là-bas, quand ça tirait, il y avait deux cibles, et puis on a dit, ah bah oui, d'accord, il y en a un 35 et un 36. Eureka, j'ai compris. Mais pendant des décennies, on a dit, il y a un truc là, il n'y a pas un nombre entier, il y a un nombre avec une virgule. Ça va pas. Hein? Alors, vous avez le droit de poser des questions, jusqu'à la sonnette. ou faire des commentaires. Donc d'abord, est-ce que vous avez... Ah, je m'adresse au professeur de chimie. Évidemment, tout ce que j'ai raconté, vous le saviez déjà. Oui, oui, il faut dire oui. Sinon, vous perdez toute votre autorité. Voilà. Hein? Et puis, la deuxième question, est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que j'ai fait des erreurs?